Bonjour Jérémy Béchon, bienvenue dans les studios de Fréquence Mistral.
Bonjour.
Ça devient une habitude, vous êtes déjà passé vendredi dernier dans les studios de Marseille pour parler de Homo Sapiens plus précisément. Et aujourd'hui, nous allons prendre le temps de parler de trois pièces différentes. Et nous referons aussi un petit focus sur Homo Sapiens, puisque vous allez venir jouer cette pièce à Manosque. Mais nous allons tout d'abord commencer par la domination masculine. Et puis, votre particularité, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, le collectif Manifeste Rien mêle à la fois les sciences sociales et le théâtre. C'est une démarche plutôt singulière.
Oui, qui commence à être reprise ces temps-ci. Nous, ça fait 10 ans qu'on fait ce travail-là. Le principe est d'adapter ces œuvres-là pour partager les outils de l'analyse critique avec le plus grand nombre. Mais une de nos spécificités, parce que maintenant, ça se fait là, on entend parler de sciences humaines et art de plus en plus, je pense que notre démarche est plus significative dans le sens où elle utilise les cultures populaires et qu'elle essaye de livrer dans la forme la plus simple possible, ce qui ne veut pas dire qu'elle est la moins technique, parce que pour être le plus sobre possible, le plus simple sur scène, il faut être encadré d'une grosse boîte à outils technique, mais de pouvoir avoir un moment festif et de partage avec des œuvres, des réflexions qui sont d'habitude réservées à un cénacle universitaire.
Cénacle universitaire, puisque vous avez notamment travaillé, ou vous êtes inspiré plutôt des travaux de Pierre Bourdieu, le fameux sociologue, et ainsi que les travaux de Tassadit Yassine, anthropologue et spécialiste du monde berbère et des rapports de domination. Donc deux œuvres, deux travaux très universitaires et qui peuvent peut-être paraître assez opaques ou complexes. Et votre défi, c'est justement de les transmettre.
Oui, parce que si j'ai voulu partager sur scène la domination masculine de Pierre Bourdieu, c'est parce que quand je l'ai lu, j'ai pris une véritable claque. Moi, j'ai pas fait d'études supérieures. Et le principe, ça a été que si je comprends, tout le monde peut comprendre. Et si je prends cette claque-là, parce que je pensais ne pas être machiste, et puis je me suis aperçu que j'étais peut-être pire que certains machistes, comme dans ma famille. Moi, j'étais éduqué aussi par mes grands-parents qui étaient d'une culture méditerranéenne où c'était très marqué entre le mâle et la femelle, entre celui qui avait l'argent qui allait au travail et puis la femme qui s'occupait du foyer des enfants. Et je pensais être moi dispensé de ça par mon éducation, par ma mère qui était féministe, qui était plus militante. Et je me suis aperçu à quel point, à la lecture du livre, je m'en doutais un petit peu, hein, je savais que j'étais pas blanc comme neige, mais à la lecture du livre, je me suis aperçu de mon propre ce que Bourdieu appelle l'intériorisation des structures de domination. Et peut-être, je me suis dit, mais je suis bien pire que mon grand-père, parce que mon grand-père, au moins, c'est clair et net dans sa sociabilité, dans sa famille. Alors que moi, je fais semblant d'être au-dessus de ces rapports-là, et je les répercute toujours.
Il y a une histoire personnelle, du coup, qui est la vôtre et qui rejoint une histoire globale, structurelle, à la fois d'intériorisation de ces structures, mais aussi de comment s'exprime cette domination masculine dans cette société. J'imagine que c'est ça aussi qui vous agit, du personnel et...
Oui, c'est le principe, c'est que si on se sert de la sociologie ou de l'anthropologie, c'est pour mieux parler de soi. C'est-à-dire, c'est pour parler au côté le plus universel qu'il y a de l'artiste et pas au côté le plus égocentrique qu'il peut y avoir de cette place d'artiste. Mais évidemment, on traite toujours ses propres passions, ses propres amours, ses propres névroses au théâtre, même en s'inspirant d'outils scientifiques comme Pierre Bourdieu ou les textes de Tassadit Yassine.
Mais j'imagine que ça a dû être un travail peut-être de plusieurs années, en tout cas un travail de fond, encore une fois, puisqu'il y a cette volonté de transmission qui passe aussi par la forme théâtrale, on va en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, comment vous avez travaillé ces œuvres? Vous les avez lues, intégrées, réécrites et réécrites? C'est vous qui écrivez ces textes?
Pour la domination masculine, avec la comédienne qui interprète tous les personnages de la domination masculine, qui est Virginie Aymon. C'est vraiment un aller-retour entre le plateau, les répétitions et l'écriture. Donc je fais un premier montage du livre que je soumets à la comédienne. La comédienne a aussi lu le livre, elle a aussi lu les livres dont le livre s'inspire, parce qu'il y a toute la bibliographie qui suit derrière, les livres qui peuvent critiquer le livre qu'on est en train de lire. Tout est bon à prendre pour cerner au maximum le sujet. Et puis, en général, sur la domination masculine, notamment, elle m'a pas mal engueulé. Elle me disait, mais enfin, pourquoi tu traites pas ce passage de Bourdieu? Je lui disais, mais il est pas tellement intéressant. Elle me disait, mais si tu traites pas ça, c'est que tu as rien compris au livre. Donc, on reprenait. Et inversement, des fois, il y avait des passages qui me semblaient évidents, qui lui semblaient moins intéressants. elle recoupe le texte, elle le joue au plateau, elle improvise, parce que quand on utilise la terminologie de Bourdieu, qui est assez complexe, mais on l'illustre aussi par des sketchs, puisque la sociologie analyse ce qu'on ne voit pas à l'œil nu dans la vie, mais ça analyse des scènes de vie qui se passent sans cesse. Donc nous, on joue sans cesse à donner l'analyse savante et à exposer directement les scènes une fois qu'on a donné ces clés de lecture-là.
Oui, et puis c'est un travail scénique très particulier, puisque c'est un seul en scène, one woman show, pourrait-on dire. On va en dire quelques mots, mais ce que je vous propose, c'est qu'on écoute d'abord un extrait pour pouvoir ensuite revenir dessus davantage. Ça s'appelle La Noblesse.
Ce serait pas exagéré de comparer la masculinité à une noblesse. Bah quoi, c'est vrai. Il suffit que les hommes s'emparent des tâches réputées féminines, vous savez, et les accomplissent hors de la sphère privée pour qu'elles s'en trouvent par là même ennoblies et transfigurées. Et oui, c'est la différence qu'on va trouver, vous savez, entre le cuisinier, hein, qui va tout de suite faire de la cuisine moléculaire, dans un restaurant 5 étoiles, le dernier étage de la Tour Eiffel, et la cuisinière. Ou le couturier, hein, qui va t'assembler 3 bandes blanches, là, comme ça, légèrement effilochées. Ce mec est un génie. J'adorerais aller faire mes courses à Leclerc avec mes 3 bandes blanches. Ah, je suis sûre que je fais un tabac au rayon Spongeflex. Et la couturière qui continue à se taper les ourlets.
Différence entre le couturier et la couturière, cuisinier, cuisinière. Là, pour le coup, c'est assez explicite en termes d'exemples sur ces stéréotypes sociaux que l'on peut croiser au quotidien.
Mais c'est l'avantage de la sociologie. Après, c'est pour ça qu'on le met en scène, c'est qu'on le croise en permanence, mais on ne le pense pas. C'est qu'on voit des grands, le couturier, et puis notre grand-mère qui, par contre, s'est tapé les ourlets, les trous dans les manches. C'est cet endroit-là que la comédienne vient porter sur scène, là, comme on l'entend, avec toujours, en se laissant, la possibilité d'improviser au fur et à mesure de la réception du public pour pouvoir relancer l'écoute. Parce que chez nous, le comique, le rire, est une manière de laisser de la place à l'intelligence. C'est-à-dire que ça permet de mettre le cerveau en suractivité, mais c'est que sans que celui-ci s'en rende compte, comme on peut faire avec les enfants quand on veut leur faire apprendre une leçon dont ils n'ont pas envie. Si on le fait en s'amusant, ben ça passe. Mais en fait, les adultes ont gardé la même manière d'apprendre les connaissances aujourd'hui.
Alors, il y a de l'improvisation, en même temps, une trame scénique bien ficelée. Quand on parle de votre travail, on fait souvent référence à la Commedia dell'arte. C'est quelque chose dans lequel vous vous reconnaissez. Et peut-être en dire aussi quelques mots pour les auditrices et auditeurs qui ne connaissent pas.
La Commedia dell'arte, ça veut dire comédien de métier. C'est venu d'une révolution théâtrale à la Renaissance en Italie qui a influencé tout le théâtre moderne. Par exemple, Molière a été extrêmement influencé par la Commedia dell'arte. Il y a des scènes entières qui sont piquées aux Italiens, qui sont réécrites, parce qu'en théâtre on se pique sans cesse les choses. On prend des textes qu'on réécrit, qu'on retriture, qu'on redit, et Molière a beaucoup utilisé de canevas de la Commedia dell'arte. Et oui, c'est un théâtre qui repose sur le comédien ou sur la comédienne. Et nous, c'est central parce que c'est pas l'apport scénographique, même s'il y en a à travers la lumière. C'est pas la musicalité, même s'il y a des pièces où on peut utiliser la musique, mais c'est vraiment cette dynamique créatrice de l'acteur, de l'actrice, qui permet d'embarquer le public ailleurs et qui puise sans cesse dans sa réalité quotidienne. C'est la grande différence pour moi entre la comédie et la tragédie aussi, c'est que cette Commedia dell'arte, elle vient toujours avoir une référence à l'actualité des spectateurs et spectatrices, et c'est pour ça qu'elle improvise, parce que chaque jour la vie est différente, chaque jour les spectateurs et spectatrices sont différents, le comédien aussi, et c'est à chaque fois savoir prendre en jeu dans l'improvisation. Improvisation, ça ne veut pas dire partir n'importe où, ça veut dire comme en musique, avec une grille, comme les musiciens de jazz utilisent des grilles de notes musicales. Après, ils font des variantes de ça. La Commedia dell'arte, ils ont inventé ce processus-là de réinventer sans cesse l'histoire, qui est le principe qu'on fait, nous, au théâtre, c'est-à-dire qu'on ne joue jamais deux fois la même représentation, même si c'est le même canevas, même si c'est le même travail préparatoire à l'avance, bien sûr.
Oui, il faut qu'elle sache son texte par cœur.
Ah oui, mais plus c'est su par cœur et plus c'est maîtrisé, et plus on a de place à l'improvisation. Sinon, c'est insupportable. Hein.
Elle est seule sur scène, Virginie Hemon, et elle joue tout un tas de personnages.
Oui, il y a plusieurs...
Jusqu'à combien pour cette pièce ?
Je crois qu'il y en a une dizaine dans la pièce. Il y a la narratrice, et puis ensuite, des fois, elle joue la mère, elle joue l'homme frustré, elle joue aussi une transsexuelle, un enfant. Au fur et à mesure, des sketchs dont je parlais qui nous permettent d'illustrer comme ça la sociologie de Pierre Bourdieu et de Tassadit Yacine.
Je vous propose qu'on écoute un deuxième extrait qui s'appelle « Le sexe masculin ». Et je rappelle aussi cette information essentielle, c'est-à-dire les dates. Oui. lorsque vous allez présenter cette pièce, j'ai oublié de les dire en début de cette émission. Du coup, vous allez jouer à Port-de-Bouc, jeudi 25 novembre, au cinéma Le Méliès. C'est à 14h pour les scolaires et à 20h30, tout public. Et ensuite, vous jouez à Aubagne, le samedi 27 novembre, à 17h. Et il y a encore une date, il me semble.
À la médiathèque d'Aubagne. Non, pour la domination masculine,
c'est les deux dates.
Ce sera à Port-de-Bouc et à Aubagne. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on avait joué la pièce à Manosque en 2018 au théâtre Jean Le Bleu. Mais c'est pour nous important que le théâtre aille aussi, par exemple, jouer dans un cinéma, parce qu'il n'y a pas le même public dans un cinéma que dans un théâtre ou dans une médiathèque. Ça demande beaucoup de travail parce qu'on amène les projecteurs, on amène pour avoir construire la magie du théâtre dans un lieu qui n'est pas structuré pour, mais d'aller au-devant, comme ça, de différents publics pour élargir au maximum et pas avoir qu'un public de théâtre.
On écoute un deuxième extrait.
Le sexe masculin est représenté comme un épieu, une hache, un couteau ou un fuseau. Ça donne envie, hein ? Attendez. Les testicules sont des outres à barater le nez. Des oignons ou des citrouilles. Ça, je crois que ça dépend des mecs. Des ronces, des aiguilles de porc épic ou de hérisson. Alors le sexe masculin est aussi parfois désigné comme un bec d'oiseau. Le bec d'oiseau, hein, pas l'oiseau. Ou par un animal. Alors là, je vous laisse deviner. L'animal le plus fréquemment évoqué, c'est... Le serpent, évidemment.
Alors, ce passage-là, c'est les représentations du sexe masculin en Kabylie.
Oui, sur les mythes berbères.
Et dans la poésie populaire kabyle, dans la mythologie kabyle, dans cette tradition orale. Pourquoi ? Parce que Pierre Bourdieu a énormément étudier la société paysanne kabyle pour mieux voir la domination masculine telle qu'elle se perpétuait en France. Il y a eu plusieurs raisons à ça, parce que d'abord, il a fait son service militaire là-bas, il a fait ses premières armes en tant que scientifique en Algérie, et puis les paysans kabyles lui faisaient beaucoup penser à sa propre famille, à son propre village de Béarnais, parce que Pierre Bourdieu était du Béarn, et il trouvait qu'il y avait énormément de ressemblances, enfin pas de ressemblances, mais de similitudes entre ces deux populations. Et pour lui, d'avoir ce regard excentré sur la paysannerie, ça lui permettait de mieux voir là où elle était encore aussi forte en France, au plus haut niveau d'études ou au plus haut niveau de légitimité. Mais c'est sûr que cette poésie populaire kabyle est extrêmement imagée, et du coup c'est un appui de jeu qui est extrêmement comique, puisque les testicules sont des outres à barater le lait, enfin tout y passe comme il dit dans la pièce. Et surtout que dans la poésie traditionnelle kabyle, il y a énormément de tabous. Donc la poésie, le mythe, le moment du conte peut permettre de dire tout ce qui ne peut pas se dire dans la société d'habitude. Donc c'est une manière d'aller explorer tout l'inconscient collectif, et pas seulement l'inconscient collectif kabyle, mais méditerranéen. Puisque s'il a étudié les kabyles, c'est parce qu'il retrouvait les Grecs antiques et que c'était la matrice comme ça de cette culture européenne de Méditerranée en Europe.
En tout cas, on se rend bien compte de l'ambiance de ces scènes de spectacle ou de vos représentations, plutôt avec les rires du public. On est vraiment plongé au cœur du comique et justement, vous venez de l'appuyer. Ça permet aussi de faire passer des choses ou en tout cas de réfléchir à des sujets de société qui peuvent être profonds, violents, compliqués, avec un certain recul qui est le rire.
Ouais, ben, oui, parce qu'en se marrant, quoi. Si on parle de la domination masculine de manière tragique, enfin, c'est pas, là, moi, j'irai pas au théâtre voir ça, quoi. Le principe, c'est non, de s'amuser c'est avec ça et de s'amuser avec la stigmatisation qu'on subit ou qu'on impose aux autres. Mais d'avoir une distance par rapport à ça, puisque c'est, si on devait pas rire, dans des situations tragiques, je pense que l'espèce humaine se serait peu développée, quoi.
Et vous parliez aussi du rapport au public tout à l'heure, de la prise en compte de tous et toutes avec ce souci de transmission, ce souci de la pédagogie. Il y a aussi des débats organisés à la suite de vos spectacles. Alors, je ne sais pas si c'est systématique, mais en tout cas, là, pour la domination masculine, c'est le cas.
Oui, à Port-de-Bouc, le 25 novembre, et à la médiathèque d'Aumagne, le 27 novembre, ce sera suivi d'un débat que j'animerai directement avec la comédienne, parce que souvent aussi, sinon, on dit, mais alors un homme qui vient faire le débat après qu'une femme y jouait la domination masculine, et c'est assez légitime aussi. C'est vrai. Mais c'est intéressant parce que du coup, en traitant de ça, on vient réfléchir ses propres positions dans l'espace public en permanence pour savoir ce qui a plu, ce qui a heurté ou non les spectateurs, spectatrices. Et dans ces débats de la domination masculine, après le spectacle, il y a très souvent une lutte des sexes qui se met en place et qui est assez drôle aussi.
C'est-à-dire ?
C'est que très souvent, à la sortie du spectacle, les femmes défendent la position des femmes dans le spectacle et les hommes viennent défendre leur position aussi de masculinité. Mmh. Et ils disent, mais on en prend plein la gueule dans la pièce quand même, mais c'est pas si facile pour nous ce qu'on dit dans la pièce. C'est-à-dire que le poids de la masculinité, de l'homme qui doit sans cesse être à la hauteur de son sexe. Et c'est quelque chose qui est assez rigolo. Oui, une lutte des sexes, c'est-à-dire les hommes, la parole des hommes contre la parole des femmes à travers les outils de la pièce de théâtre.
Finalement, ça s'est bien joué s'il y a un débat qui se crée à la suite de la pièce, de la représentation.
Oui, c'est que la pièce a fonctionné et puis ça nous permet aussi à chaque fois d'intégrer certaines remarques dans les prochaines représentations. Parce que ça nous fait toujours avancer et que les gens sont porteurs d'énormément de connaissances et que si la parole se libère, en tant qu'auteur, metteur en scène, comédien, on complète sans cesse la banque de données qu'on avait avec les sociologues, les anthropologues, notre propre expérience. Donc on continue d'avancer sur ces questions-là.
Et dans cette interaction avec le public, vous proposez aussi des ateliers de médiation et d'éducation populaire liés à cette pièce.
Oui, oui, c'est une démarche qu'on fait dans les écoles, dans les centres sociaux, beaucoup dans les quartiers, beaucoup dans les quartiers populaires, pour continuer à développer les thématiques qui sont abordées de manière festive dans le spectacle, pour donner envie aux gens de venir voir la pièce, parce que c'est pas parce qu'on joue une pièce gratuitement dans un quartier populaire que les gens vont venir la voir. Il faut susciter l'envie de venir. Il faut se présenter. Et ça permet donc de poursuivre, comme je le disais, cette connaissance-là à travers, du coup, d'autres outils. On peut, dans les ateliers de médiation, sont utilisés des clips, l'actualité, le mouvement MeToo, les scandales, les derniers scandales au César. En fait, toute l'actualité des luttes féminines et féministes ou de la domination masculine sont utilisées pour faire réfléchir les concepts de violence symbolique, qui est le propre du travail de Bourdieu et qu'on a mis en scène, dans cette violence visible. Cette violence invisible qu'on ne voit pas directement dans l'actualité. Le but chez nous, c'est de montrer la partie immergée de l'iceberg et de revoir l'actualité différemment.
Ouais, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que le réel, l'actualité, le réel rejoint complètement la scène. Et la sphère culturelle n'est pas une sphère séparée de la vie, mais bien au cœur de nos existences. C'est ce qui fait l'originalité de ce que vous proposez. Eh bien, on écoute un dernier extrait qui s'appelle Les Olives.
Elles sont condamnées à donner à chaque instant les apparences d'un fondement naturel à l'identité minorée qui leur est socialement assignée. Non, par exemple, c'est à elles qu'un conte attache tâche longue, ingrate et minutieuse de ramasser les olives. Vous savez, même le sol, les... ou les brindilles de bois. Bon, vous voyez ou pas? Je vais pas rester... Je sais pas, il y a quelqu'un qui a déjà olivé ici? Non. J'ai entendu un moi, non? Oui. Oui, c'est vous, levez le doigt. Comme à l'école. Ouais. C'était une femme. Vous faisiez quoi dans les champs d'olivier?
Je ramassais les olives.
Vous ramassiez les olives? Bah oui, évidemment. C'est évident. C'est qui faisait tomber les olives?
Mon père.
C'est génial. Voilà, j'ai plus rien à dire. Mais oui, mais c'est ça. Ce sont en général les femmes, hein, et puis les enfants, hein, ce sont les minorés, là, les... Voilà, qui ramassent, vous savez, comme ça, là, s'éclatent. Ramassent toutes les petites olives, là, éparpillées, là, une à une, avec le sol. Les hommes, eux, armés de gaules et de haches.
Un extrait de ce spectacle, La domination masculine, du collectif Manifestorien, avec Virginie Hémon comme comédienne et Jérémy Béchon à la mise en scène, qui est présent dans les studios aujourd'hui avec nous pour parler de ce spectacle que vous pourrez voir jeudi 25 novembre au cinéma Le Méliès à Port-de-Bouc, 14h pour les scolaires, 20h30 tout public. Et si jamais vous ratez cette date, eh bien, session de rattrapage le samedi 27 novembre à 17h à la médiathèque d'Aubagne. Un dernier mot sur la domination masculine, Jérémy Béchon, puisque ensuite nous allons parler de deux autres pièces que vous avez aussi mis en scène, et aussi d'ailleurs avec Virginie Hémon sur scène.
Non, bah écoutez, venez nous retrouver, venez nous sur scène, parce que ça fait, après cette longue absence d'impossibilité de jouer, c'est une vraie jouissance de pouvoir retrouver, la scène. Et on retrouve tous dans la compagnie, au fur et à mesure, le moral qui remonte petit à petit au fur et à mesure des représentations et des publics qu'on croise.
Eh bien, dans quelques instants, nous parlerons d'un deuxième spectacle, Homo ça coince. En attendant, on fait une pause musicale avec Anushka Shankar et le titre Fathers. Thank you. Et de retour en direct dans les studios de Fréquence Mistral pour ce magazine de midi du 15 novembre. Et il est 12h29 sur Fréquence Mistral et nous sommes toujours en direct depuis les studios de Manosque avec Jérémy Béchon, metteur en scène, qui fait partie du collectif Manifeste Rien pour nous parler d'une seconde pièce. Cette fois, ça s'appelle Homo Sapiens. Et puis il y a une date eh bien, qui arrive à grands pas puisque c'est demain. Par contre, c'est pas tout public, c'est spécialement pour les scolaires.
C'est une représentation scolaire qui vient en rattrapage du boulot qu'on a fait pendant un an de médiation avec les élèves du lycée Martin Brett. Et là, les scolaires peuvent être ouvertes au public, mais avec les problèmes de passe sanitaire et compagnie, c'est essentiellement pour eux que sera jouée la représentation au théâtre Jean Le Bleu demain. Ouais.
Alors, vous avez fait des ateliers à Manosque pendant
toute une année de Covid, ouais. On a continué à aller au front. C'était pas facile parce que la dématérialisation permet de rester au chaud chez soi, loin de l'épidémie du virus. Mais notre médiatrice, Marie Béchon, a continué à aller pendant un an et vu que la pièce ne pouvait pas jouer, elle a adapté cette pièce-là. Elle a adapté les contenus des ateliers qui n'étaient plus une préparation à venir voir la pièce puisqu'on savait que ça serait impossible avec la crise du Covid, mais c'était arriver à passer ses connaissances sur l'homophobie, sur l'homosexualité avec les élèves en utilisant des vidéos, en utilisant des dialogues, en utilisant des images, en utilisant l'actualité de l'homophobie qui se propage en permanence pour travailler avec les élèves sur les questions de sexualité dont on parle beaucoup, parce qu'on parle beaucoup la pornographie, c'est scandaleux dès le plus jeune âge. Je dis pas que c'est pas scandaleux, mais je dis que le paradoxe, c'est que si notre société est de plus en plus sexualisée à travers la pub, à travers les images des clips ou à travers cette pornographie qui fait grand, grand scandale, par contre, la réflexion sur la sexualité est toujours aussi absente. Et on pense que c'est extrêmement important avec des jeunes, avec des adolescents, de pouvoir questionner l'hétérosexualité, l'homosexualité, l'homophobie, et par là même de faire recouper les questions de discrimination.
Sexualité, homophobie, on rejoint complètement la pièce que nous avons présentée en première partie de cette émission, c'est-à-dire la domination masculine.
Oui, d'ailleurs, c'est venu du public, parce qu'on a beaucoup joué la domination masculine dans des théâtres, mais aussi dans des MJC, dans des lycées, pour des publics très différents. Et une des redondances qui revenait dans les débats qui suivent la représentation, c'était pourquoi vous ne faites pas, notamment les animateurs, les éducateurs, les professeurs, beaucoup, disaient pourquoi vous ne faites pas une pièce sur l'homosexualité et l'homophobie.
Un accent spécifique là-dessus.
Voilà. Et moi, souvent, je répondais non. Au départ, parce que bon, je suis un peu buté, souvent je lui dis non, puis après je réfléchis. C'est parce que je suis un garçon, peut-être. Mais parce que je pensais que la domination masculine, justement, en déconstruisant le masculin et le féminin, travaillait à ça, puisqu'on montre les faiblesses de l'homme. Et on dit que l'homme ne doit pas avoir peur du féminin en lui-même, et que la femme a aussi cette force masculine, et que les choses ne sont pas tranchées dans le genre de manière aussi forte que ce qu'on veut nous l'apprendre. Et que ces choses-là ne sont pas naturelles, qu'elles sont culturelles, qu'elles sont construites. Donc si ces identités de genre masculin, féminin sont construites, on peut les déconstruire. Donc je pensais que ça suffisait avec la domination masculine, mais à force qu'on me pose cette question, ça m'a fait travailler sur la question, et nous nous sommes lancés sur cette pièce-là. Et quand on s'est lancé du coup sur cette pièce, c'est toujours le paradoxe avec les pièces de Manifeste Rien, c'est que si je vais vers la création, c'est parce que c'est un sujet que je pense connaître. Et puis quand je me mets à l'étudier, je m'aperçois à quel point je suis inculte sur la question, et je me suis aperçu qu'en fait, pour traiter de l'homophobie, il fallait sortir du cadre hétérosexuel, finalement, dans lequel est encore la domination masculine de Pierre Bourdieu, de Tessa Ditiassine, et aller trouver des tas d'autres choses pour pouvoir penser et critiquer cette hétérosexualité, qui est cette hétéronormalisation qui est présentée encore une fois comme la sexualité reproductive qui nous paraît naturelle, mais qui est loin d'être le cas si on réfléchit si on réfléchit à la question avec les premiers concernés. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que si on pense aux discriminés sans travailler avec eux, notre propre position ne bouge pas trop. Si on va directement à la rencontre des gens qui font bouger les lignes de front, des gens qui changent de sexe, des gens qui ont une sexualité secrète et qui l'assument, là, évidemment, ça fait poser un tout tas d'autres questions.
On va écouter un extrait de cette pièce. Il me semble qu'en présentation de Homo Sacquoins, j'ai reparlé de Virginie Hamon comme comédienne. Or, ce n'est pas le cas. Elle joue dans la troisième pièce que nous allons présenter lors de ce magazine.
En fait, Virginie Hamon a co-écrit avec moi la pièce Homo Sacquoins, mais c'est joué par Olivier Boudran, qui a également participé à l'écriture et qui joue une quinzaine de personnages dans la pièce Homo Sacquoins.
Donc toujours avec le même principe de one-man show, avec plusieurs personnages, etc. On écoute un extrait tout de suite.
Où va donc le papa? Sur la place Sébasto. Vérifier s'il n'y a pas quelques travelots.
Des travelots à Sébastopol?
Sébasto pour les accros du popol.
Ben, j'en ai pas vu beaucoup, hein. Mais par contre, des papas...
Des papilles... Des pompiers, des pompistes.
À la gare Saint-Charles, alors là oui. Dans les années 90, des travestis qui venaient d'Algérie, Oran, compagnie, il y en avait. Mucho, hein? Et pourtant, les flics de la brigade des mœurs, ils étaient particulièrement dégueulasses avec eux. Eh ben, je sais pas si t'imagines. Arabes, pauvres et pédés.
Le décor de cette pièce, c'est aussi Marseille.
C'est Marseille pour la première partie de la pièce, oui, parce que là, comme le dit, il y a deux personnages. Il y a le personnage de Loyal, le monsieur Loyal, qui est le narrateur, qui peut aller n'importe où dans les scènes, n'importe où dans les époques. Et puis, il y a Betty, qui est une trans franco-argentine, qui a connu le quartier de Sébastopol, enfin, pas que le quartier de Sébastopol, à Marseille dans les années 90. Et c'est un peu le « je pensais pas faire partir de Marseille », mais il se trouve qu'en travaillant avec le socio-anthropologue Laurent Guessade, qui avait beaucoup mené d'études justement sur les lieux de drague nocturne entre hommes à ciel ouvert à Marseille, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de continuer à travailler sur une histoire que je connaissais. Mais la pièce va des années 90 à Marseille pour finir en 2013 à Paris. Et ces lieux de drague entre hommes nocturnes, ils existent à Nîmes, ils existent à Barcelone.
Ils existent partout.
C'est universel. C'était
une manière d'en parler, justement, où vous confrontez peut-être au tabou aussi, à des formes de tabou. En tout cas, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de parler, encore moins de voir sur scène et encore moins de partager avec tout un tas de gens.
Oui, d'ailleurs, Laurent Guessade a écrit un livre qui s'appelle « Homme en chasse, chronique d'une sexualité secrète ». C'est tout ce principe de ce qui se fait la nuit, ce qui ne se dit pas le jour, de ces différentes doubles vies. Et la pièce part du canevas d'une famille marseillaise dans les années 90, qui est classique, papa, maman, l'enfant, et qui était le père hétérosexuel le jour, mais la nuit, il fréquente ces lieux de drague entre hommes. Et ça crée évidemment un problème dans la famille du fait du tabou, du fait du pas dire, du fait que chacun sent que ce papa, il y a toute une partie de sa vie qu'on ne connaît pas et qui reste cachée. Et à partir de là, c'est là où on voit que quand on traite de l'homosexualité et de l'homophobie, ça ne se cantonne pas qu'à la question du même sexe. Mais ça vient questionner qu'est-ce que le couple, qu'est-ce que le modèle du couple hétérosexuel et qu'est-ce qu'on va léguer de notre propre image, de notre propre sensibilité à l'enfant. Ça vient poser toutes ces questions-là.
Ça vient poser des questions sociales et non pas que des questions d'identité, comme on l'entend beaucoup aussi d'une autre frange de la parole publique, plutôt du côté à droite. Il n'y a qu'à voir la une du Figaro et d'il y a quelques jours.
Ouais, qui était costaud, ouais.
Voilà, qui était costaud sur justement cette culture LGBT, queer plus, etc., qui serait en train de miner les valeurs de notre société. En tout cas, ce ne sont pas des questions d'identité à proprement dit, même si ça pose la question de l'identité, ce sont vraiment des questions transversales, c'est-à-dire des questions sociales.
Oui, c'est très intéressant que tu relèves ça, parce que la couverture du Figaro, là, si j'ai bonne mémoire, c'est le comédien Olivier Boudran qui me l'a montré. Il m'a dit, tiens, mais t'as vu ça? C'est les LGBT,
le racisme,
les musulmans, le mouvement décolonial, ils sont tous dans le même sac et viennent comme ça détruire les valeurs de la France. Et c'est ce qui s'est présenté comme extrêmement nouveau, donc extrêmement dangereux. C'est pour ça que cette pièce, dans les années 90, où le début se passe dans les années 90, parce que c'était déjà la même rhétorique. Il faut savoir que la municipalité de Marseille, de Gaudin, qui a fait ce règne absolument terrible, qui a fracassé la ville de Marseille pendant des années, il a fait sur le dos, comme ça, aussi des lieux nocturnes. Il y avait Borély, il y avait Saint-Charles, il y avait Sébastopol, et il mettait dans le même sac les sans-papiers, qui s'appelait, dont on parle des travestis algériens qui venaient tapiner pour survivre à l'époque, les toxicomanes, les homosexuels, sur fond d'épidémie du sida. Mmh. Et il fallait nettoyer la ville des indésirables.
L'ennemi intérieur.
C'est extrêmement intéressant parce qu'on voit qu'aujourd'hui, cette même figure de l'ennemi intérieur est reprise. Et c'est, encore une fois, je parle de Marseille, mais nous, on le couple à ce qui se passait nationalement, c'est que ça se recouplait avec les politiques anti-migratoires de Pasqua. Comme aujourd'hui, on le retrouve avec ces frontières fermées et le cimetière que devient la Méditerranée. Ces choses-là se recoupent sans cesse. Et ceux qui se considèrent comme minoritaires, comme indésirables, eh bien, on s'aperçoit que ça fait quand même un sacré paquet de monde qui cohabite ensemble sans problème. Parce qu'il faut savoir que le lieu nocturne de Sébastopol ou de Borély dérangeait très peu de monde. Par contre, il y avait des votants là-dedans, il y avait des notables, et la bourgeoisie se sert de ces questions-là pour faire passer des mesures de plus en plus réactionnaires qui servent à des fins électorales très rapides, mais extrêmement dangereuses sur le long terme.
Mmh. On écoute un deuxième extrait de cette pièce où on retrouve ce personnage de Betty.
Je ne sais pas si vous voyez, comment se dit, un mingotorio. Il y en a une qui parle espagnol. Bon, aidez-moi. Les trucs à pipi, là, pour les messieurs dans la rue, là. Les pis saladières, les pipis, les... Pis sautières, voilà, merci. On va les habituer. Mais attention, hein. La classique jolie art déco, avec les parois arrondies et tout, hein. Et bien, au début, c'est Bartho. C'est là que les garçons se rencontraient. Ouh! Ça fait peur, hein. Alors, la municipalité, elle a détruit les nids. Les soissons se sont éparpillés avant de se retrouver dans les squares d'à côté. Les squares d'Oria. Les jours, c'était un jardin d'enfants. Avec des balançoires, des toboggans, des buissons. Mais la nuit, on pouvait s'y cacher pour faire l'amour. Alors la municipalité, elle a tout rasé. Il restait plus qu'un tout petit coin de buisson. Moi, j'appelais ça l'habitation. La chambre. Bon, c'était la seule, hein. Alors, forcément, c'était souvent occupé. Bref, il ne s'arrivait pas à se débarrasser de nous. Alors, la municipalité, hijo de puta de mierda, hein. Eh bien, vous parlez espagnol au final. Hein? Et nous sont installés des lampadaires énormes, avec une lumière horrible. Tu voyais tout, les cerfs, les rives, les poches, même. Bah oui, comment tu veux travailler dans ces conditions? Bah oui, des fois je le fais payer. Mais des fois aussi je le fais gratuit. Hein.
On entend bien le dispositif scénique qui ressemble aussi à la première pièce dont on a parlé. On voit bien que c'est en interaction avec le public, il y a beaucoup de rire.
Oui, c'est pareil. Olivier Boudran se garde la place de l'attitude de toujours pouvoir improviser, ce qui est à mon avis la base du spectacle vivant quand on le fait devant, notamment au théâtre avec des spectateurs, spectatrices.
Alors avec ce comédien, mais aussi avec un sociologue, Laurent Guessade, vous avez écrit cette pièce à trois mains et vous êtes inspiré aussi de...
À quatre mains.
C'est également avec Virginie. Aussi avec Virginie. Ouais, et vous êtes inspiré de tout un tas de travaux divers et variés. Alors peut-être pour commencer avec Laurent Guessade, comment vous êtes rencontré, en tout cas comment vous êtes rencontré dans ce travail intellectuel et cette démarche artistique?
Ben c'est Olivier Boudran qui a rencontré le socio-anthropologue Laurent Guessade à Paris, parce qu'il donne des cours à l'école d'architecture de sociologie. Et il est venu voir, donc Laurent Guessade est venu voir La domination masculine, et il a extrêmement apprécié ce travail-là, notamment parce que ça lui a rappelé, pour lui, il fait de la recherche-action, c'est-à-dire que il fait de la recherche classique, on pourrait dire, mais aussi de la recherche-action, où il a beaucoup aidé des associations de trans à s'émanciper, à trouver des solutions dans le droit, à trouver des solutions intellectuelles, affectives, à se sortir comme ça de la mouise. Et donc, il met en pratique directement sa recherche. Il a été extrêmement activiste aussi dans la prévention contre la lutte contre le sida à Marseille dans les années 90, à un moment où les médecins se désintéressaient complètement de la chose et où ils disaient que Libération avait titré il y a quelques années, avant les années 90, à propos de l'épidémie du sida, du cancer gay. Donc on peut imaginer la stigmatisation qu'il y avait à cette époque-là sur les malades. On a travaillé ensemble, comme je le fais avec les comédiens, là je l'ai fait directement avec lui. Il a corrigé les textes qu'on proposait pour les améliorer à chaque fois qu'il y avait un raccourci ou que ça manquait de demi-mesure, parce que c'est dans la demi-mesure qu'on trouve toutes ces vérités qui sont cachées.
Oui, et tout un tas de sources d'inspiration. Donc, on va peut-être pas toutes les citer, mais il y en a énormément.
Il y en a un paquet, ouais.
Il y en a un paquet.
Et le livre dont j'ai parlé, parce que je l'ai mal, j'ai donné un titre qui était un petit peu faux, c'est Hommes en chasse, chronique territoriale d'une sexualité secrète aux presses universitaires. Ce sont les recherches qu'on a en partie adaptées de Laurent Guessade qui sont éditées depuis 2020.
Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un dernier extrait et peut-être qu'on va passer à l'autre pièce, puisqu'il nous reste un petit quart d'heure pour parler de cette dernière pièce.
Ah, t'as des mecs, ils se tortillent tellement leur petit cul qu'on dirait des barillines. Hein. Ben, quand t'as un mec à vrai qui résiste pas, ben voilà, t'es comme ça, nous, les mecs. Hein. Alors forcément, ben, tu le chopes, ce petit cul. Hein. Ben, c'est pas ton cerveau qui dirige, tu comprends. Mais après, t'as les boules, hein. Pas parce que t'as eu ce petit cul avec sa grosse bite de veau. Moi, la première fois, c'était avec Betty. Betty. Ben, maintenant, on va tout l'autre, hein. Et après, forcément, tu vois rouge, hein. Parce que tu t'en veux d'avoir été aussi con. Et surtout d'avoir trouvé ça bon. Mais contre toi-même, qu'est-ce que tu peux faire? Ben, rien, hein, t'as pas le foutre des gnons, hein. Et puis, qu'est-ce qu'ils allaient dire, les copains? Puis, c'est l'autre, là, qui t'a mis dans un état pareil. Les mecs, ils sont terribles. Ils te font du gringue jusqu'à te mettre à genoux et après, ils t'en collent une parce que t'es une perverse.
C'était un troisième extrait de cette pièce Homo Sapiens qui va être jouée donc demain mardi 16 à Manosque pour les scolaires et aussi bientôt à Marseille au Théâtre de l'Œuvre.
Les 18, 19 et 20 novembre.
À 20h.
À 20h.
Avec des représentations suivies d'un débat. Et enfin, nous passons à la troisième pièce du collectif Manifeste Rien qui s'appelle Fadma et Louise 1871, Le cri des peuples. Une nouvelle création ?
Oui, c'est la nouvelle création là, qui est écrite directement par Virginie Aymon. Là, moi, j'ai coécrit la pièce avec elle, mais c'est vraiment elle qui a initié ce projet-là sur une idée avec une chanteuse kabyle qui s'appelle Nadia Amour, qui avait donné l'idée comme ça de comparer Fadma Nsoumer et Louise Michel. Et Virginie Aymon s'est emparée de cette pièce-là et en a fait une pièce qui est très poétique, même si elle relate aussi l'histoire franco-algérienne, la colonisation et de la Troisième République à nos jours. Ça se passe tout sur la Troisième République, mais c'est avec des questions d'actualité évidemment très fortes.
Là, peut-être peut-on dire deux mots sur Fadma et Louise. Qui sont ces deux personnages? Alors, même si on peut un peu s'en douter, mais...
Alors, je vais commencer par la plus connue, surtout en France, c'est Louise Michel, donc cette figure de proue de l'insurrection parisienne, de la Commune de Paris en 1871. Donc une femme qui était une révolutionnaire, qui était une institutrice, qui soignait également, et qui a beaucoup... qui est l'instigatrice du féminisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui s'est battue contre toutes les injustices, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient raciales ou qu'elles soient sexuelles. Et Louise, ça c'est pour Louise Michel donc. Et puis Fadma Nsoumer, c'est une guerrière kabyle qui a mené un combat similaire en Algérie. Ce qui est intéressant, c'est que Fadma Nsoumer et Louise Michel sont nées la même année de 1830, qui est le lancement de la grosse colonisation de la France en Algérie. Et cette Fadma Nsoumer s'est battue, a pris les armes C'était une cavalière hors pair et qui s'est battue contre l'envahisseur français, contre l'impérialisme, contre le colonialisme, et qui a infligé des défaites terribles aux militaires Randon, alors qu'ils n'avaient absolument pas la même puissance de frappe militaire. Et c'est important de relever que la révolution est portée par les femmes. Puisque cette Fan Maen Soumer, elle a été complètement oubliée des livres d'histoire, alors qu'elle est morte en 1857 à Beni Slimane du fait de sa révolte. Hein. Elle a directement été condamnée suite à son arrestation et elle est morte en prison. Mais elle a été oubliée des livres d'histoire. Elle est encore présente dans la tradition orale kabyle, enfin dans la mémoire collective. C'est quelqu'un qui est encore connu, mais qu'on ne retrouve pas dans les manuels. Pourtant, elle est une des pionnières du nationalisme algérien. C'est-à-dire que c'est cette révolution qui a eu lieu, enfin, qui a abouti en 1962, elle part de ces femmes-là oubliées qui ont été des guerrières. Et Fan Maen Soumer, parce qu'elle est du village de Soumer, comme similitude avec Louise Michel, c'est qu'elle était également une soignante. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui soignait avec les plantes, une voyante. Il y avait tout ce monde magique, cosmogonique, kabyle, parce que l'islam était entouré de ce paganisme, était entouré des influences juives, était influencé de toutes ces influences-là, qui est toujours présent en Kabylie. Et voilà.
Là, on touche encore à un sujet qui est la cause ou le parti pris des femmes, on va dire. Donc on rejoint encore une fois la domination masculine, on rejoint aussi cette question sociale de la colonisation, décolonisation. On voit bien votre terrain de prédilection au collectif manifestorien, le parti pris d'émancipation.
Oui, à chaque fois, avec Virginie, parce que là, en l'occurrence, c'est une pièce qui est Virginie Aymon, cette pièce qu'elle a créée, à chaque fois, souvent, on se dit ensemble, on va arrêter. La colonisation, on va arrêter les rapports de domination. Et puis, il y a toujours une urgence qui vient porter sur la scène. Là, en l'occurrence, par exemple, c'était aussi les Gilets jaunes, la répression des Gilets jaunes qui a été féroce en France. Ça nous a beaucoup fait penser à la répression qu'il y a eu sur les communards à Paris. Bon, là, il y a eu des communes aussi à Lyon, à Marseille, mais nous, on s'est ciblé avec Louise Michel sur ces communards parisiens et sur aussi les insurgés kabyles et algériens, parce qu'il y a eu une révolte en 1871 en Algérie qui s'appelle la révolte des Mokrani, menée par le cheikh El Mokrani, qui était un leader algérien. Mais par exemple, cette révolution qui est dite de El Mokrani, on oublie qu'elle était instigée par Fan Maen Soumer. C'est toujours cette même chez les dominés, c'est-à-dire même dans les luttes populaires, quand on va chercher qui s'est battu, ben les figures masculines viennent très largement l'emporter, alors que ce sont les femmes qui font bouger énormément de lignes de front.
Alors peut-être peut-on annoncer les dates aussi de représentation, même si c'est dans un petit moment, mais les avant-premières, eh bien, ça sera le vendredi 17 et samedi 18 décembre à 20h30 à l'Ouvre-Boîte à Aix-en-Provence. Ensuite, vous jouez le jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 février à 20h au Théâtre de l'Œuvre à Marseille. Et enfin, le 8 mars à 18h30 au Théâtre Jean Le Bleu à Manosque. Ça sera aussi l'occasion de rappeler ces dates sur les ondes de fréquence Mistral, parce que c'est dans un moment. Pour cette pièce, eh bien, nous n'avons pas d'extrait
sonore.
Par contre, on peut aussi parler du dispositif scénique, puisque là, ce ne sont pas des one-man ou des one-woman show.
Non, on est obsessionnel, mais on arrive quand même des fois à faire des formules différentes. Il y a trois comédiens sur scène, dont un comédien qui est également musicien. Et puis, il y a une création lumière qui est plus audacieuse. Je ne dis pas que les précédentes ne le sont pas, mais qui a une autre envergure. On s'est donné davantage les moyens de pouvoir créer un univers magique pour pouvoir passer différentes époques en France, en Algérie, à Marseille, en Nouvelle-Calédonie, pour pouvoir voyager comme ça à travers le temps, à travers le parcours de ces deux femmes que sont Fadma Ensoumer et Louise Michel. Et on a aussi utilisé un son spatialisé. Donc le son arrive comme au cinéma de plusieurs enceintes avec un univers extrêmement poétique. Parce qu'un des personnages principaux dans la pièce, c'est Yéman Ndounit, qui est cette déesse kabyle oublié, que certains appellent la sorcière Sétout en Kabyle. Et cette déesse va guider Fadma Ensoumer dans la lutte. Et quand Fadma Ensoumer va mourir en prison sous l'impérialisme français, sous la répression des militaires, c'est elle même qui va ensuite guider Louise Michel. Parce que les bagnards, communards et kabyles vont ensemble être envoyés par le bateau du Virginie en Nouvelle-Calédonie. Et là, on rejoint directement la question de l'intersectionnalité des luttes, qui c'est important de le conceptualiser, mais ça sert à rien de crier comme certaines presse le font aujourd'hui, c'est un scandale de venir recouper ces choses-là, elles se passent dans l'histoire. Et c'est comme ça que Louise Michel va rencontrer des Kabyles et va se mettre à se battre contre la colonisation, contre le même État français, mais qu'elle va avoir une prise de conscience beaucoup plus large qui va être mondiale. Et comment l'anarchisme que Louise Michel portait déjà, elle va vouloir l'élever dans des conférences aux États-Unis et en Algérie, où elle mènera les dernières conférences.
Et dans cette pièce spécifiquement, donc, il y a un focus sur deux personnages, mais est-ce que les comédiens, comédiennes jouent plusieurs personnages ? Comment ça se passe, la distribution des rôles ? On est encore dans un dispositif où il y a un changement tout au long de la représentation du comédien ou de la comédienne qui passe de l'un à l'autre ?
Oui, il y a encore les comédiens jouent plusieurs personnages, parce qu'il y a près de 20 personnages dans la pièce pour 3 comédiens. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Virginie et Mone jouent toutes les femmes. Ça a été un parti pris, parce que nous, souvent dans les pièces, on transgresse sans cesse les genres. Les hommes peuvent jouer des filles, les filles peuvent jouer des garçons en permanence. Là, c'était un petit peu différent. Virginie et Mone jouent Fadma Ensoumer et Louise Michel. Elles jouent aussi les mamans et les grands-mères de ces enfants-là. Et puis, Franck Vraides et Olivier Boudran, qui sont les interprètes masculins, jouent tous les autres personnages. Donc, le Cheikh El Mokrani qui mène la révolte, comme on l'a dit, Napoléon III, qui est assez ridicule dans la pièce, quand même, il faut le dire. Thiers, le nain, ce qu'on appelle le foutriquet. voilà, et les différents bagnards et insurgés de toutes sortes qu'ils croisent tout au long de la pièce.
Merci Jérémy Béchon. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette pièce ? Est-ce que vous avez aussi des ateliers, par exemple ?
Oui, c'est en train d'être créé et on va travailler pendant un an en 2022 avec le lycée Martin Brett. Enfin, si tout ce qu'on met en place se valide là actuellement, et pour à Manosque, donc, pardon, pour mener une représentation pour les élèves en mars, et puis avoir tout un travail d'accompagnement sur les questions de colonisation, de féminisme, de lutte, d'histoire qui se recoupent. Évidemment, comme le scénario de la pièce le montre, aujourd'hui encore, on est, que ce soit à Manosque, à Paris ou à Marseille, cette multiplicité-là. Et d'où vient cette multiplicité ethnique, on appelle ethnique ou qu'on dit raciale, ces différentes cultures, ce mariage-là, quelles sont les possibilités d'histoire commune à recréer sans cesse. Le théâtre et l'histoire nous permettent de trouver des solutions qui sont assez simples en comparaison des 10 scandales ou problèmes médiatiques qui sont présentés sur les problèmes d'identité nationale ou autres.
Eh bien, merci d'être venu parler de ces 3 pièces différentes. Je voulais vous poser la question pour finir. Si vous aviez un nouveau projet, mais le temps nous est vraiment...
Ben là, le nouveau projet...
Rapidement, alors.
Non, c'est Fadma et Louise, et c'est jouer la domination masculine à, comme on l'a dit...
Et mettre en place les ateliers.
Et mettre en place ces ateliers-là, ne serait-ce que rejouer au Moussacoins, au Théâtre de l'Œuvre, là, retrouver le public, c'est déjà un enjeu énorme après cette année terrible.
Merci Jérémy Béchon d'être venu dans les studios de Fréquence Mistral à Manosque. Et on rappelle aux auditrices, auditeurs, que vous pouvez réécouter l'ensemble de cette interview sur notre site fréquencemistral.com. À bientôt.
Merci beaucoup.